Bienvenue à la maison. Au travers de ce podcast, vous pouvez entendre le message de notre célébration au Lexington Café. Bonne écoute!
Que la maison soit la maison de chacun d'entre nous.
Ouais.
Amen.
Bienvenue. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Merci beaucoup pour l'accueil. C'est vraiment une joie pour moi d'être avec vous. J'entends souvent parler de vous. Et voilà. Et ça se dit pas normalement, mais je prie pour vous aussi de temps en temps. Et ouais. Donc comme ça, ça me permet de voyager un peu à Toulouse sans y être. Donc très content d'être avec vous ici ce soir. Vous avez les salutations de ma femme Sandrine qui n'a pas pu faire tout ce voyage avec moi. Voilà, on habite après 22 ans en France, on est retourné habiter en Suisse. Mais en fait, en Suisse, j'y suis pas beaucoup. J'habite à Neuchâtel, près d'un magnifique lac. C'est joli, hein? Voilà les amis, donc pour aujourd'hui, j'avais à cœur... une parole que Jésus a adressée à un moment vraiment important de son ministère, de son passage sur la terre. C'était un jour, il était sur une montagne, et puis là, il va donner un des enseignements les plus importants qu'on a dans la Bible, qui s'appelle le sermon sur la montagne. Et au milieu de ce sermon, de ce message sur la montagne, il va dire quelque chose de très fort si on le prend au sérieux, mais d'un peu angoissant peut-être aussi si on le prend au sérieux. Il dit ceci, il dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus. » Cherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, eh bien, c'est partout là où Dieu règne. Qui sait, il y a quelqu'un qui a dit la Suisse?
entre autres,
ouais. Le royaume de Dieu, c'est partout où on laisse Dieu être le roi, où on laisse Jésus régner. Le royaume de Dieu, en fait, c'est le bien le plus précieux qu'on puisse avoir. Il n'y a rien de mieux que ça. Quand tu entres dans le royaume de Dieu, quand tu vis dans le royaume de Dieu, tout change. Ta vie change et tu sais ce que tu découvres? Tu découvres ce pourquoi tu as été créé. Des fois dans la vie, on est un peu paumé, on est un peu perdu parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment pourquoi on est là ou on a l'impression que ce qu'on vit et ce qu'on fait n'est pas vraiment connecté avec ce que tout au fond de nous, on sent qu'on devrait être ou qu'on devrait vivre. Et quand tu laisses le royaume de Dieu être dans ton cœur, tu te connectes avec celui qui t'a créé, celui qui te connaît, celui qui sait pourquoi il t'a fait et comment il t'a fait. Et là, ta vie commence de trouver son chemin, de retrouver son équilibre. Et c'est pour ça que c'est tellement important de chercher, premièrement, à ce que Dieu soit le roi, à ce que Jésus soit le roi dans ma vie. Et quand tu laisses Jésus devenir le roi dans ta vie, ça commence de changer des choses, premièrement dans ton cœur. C'est là que le changement commence. Et ce qui est extraordinaire, c'est quand ton cœur commence d'être changé, qu'est-ce qui se passe? Ça change tes relations, déjà par exemple dans ta famille. Ça change la manière dont tu vois ton frère, ta sœur, ton père, ta mère, ton cousin, ta cousine. Ça change ton regard sur les autres. Mais ça ne fait pas que ça. Moi, ce que ça a fait à un moment donné, ça a changé mon regard sur la création. Pendant les premières années de ma vie, je ne voyais pas la beauté des fleurs, je ne voyais pas la beauté de la nature. Et à un moment donné, c'est comme si mes yeux se sont ouverts sur des choses que je ne voyais pas avant. Mais ça change aussi la manière dont tu gères ton argent. Ça change la manière dont tu gères tout ce qui passe entre tes mains. Si tu es artiste, ça va changer la manière dont tu peins, ça va changer la manière dont tu fais de la musique, ça va changer toute chose. Si tu es un architecte, ça va changer la manière dont tu dessines les bâtiments. Il y aura quelque chose dans ton cœur, un espace différent dans ton cœur qui fait que tu auras une inspiration. Bienvenue. Ouais, il y a encore des places. ça change la manière dont tu vas exprimer les choses dans toutes les dimensions de la vie. Si tu as un engagement politique, ça va changer la manière dont tu vas conduire ta carrière politique. Tu ne seras plus en train de vouloir trucider les autres pour prendre leur place. Il y a des choses qui vont profondément changer. Et c'est pour ça que Jésus nous invite à chercher premièrement le royaume de Dieu. Alors, c'est chercher, hein. La lumière, des fois, elle est derrière les rochers, derrière les cailloux. Pourquoi ? Parce que dans notre vie, il y a encore plein de zones d'obscurité. Des zones qu'on a choisies pour se protéger et des choses qu'on n'a pas choisies, qui nous ont été comme imposées, qu'on a reçues en héritage. Et c'est pour ça que chercher le royaume de Dieu, ce n'est pas toujours une évidence, parce qu'on a plusieurs choses qui font obstacle. Alors Jésus, il ne dit pas seulement de chercher le royaume de Dieu, il dit chercher le royaume de Dieu et sa justice. Ou, redit autrement, ce qui est juste. Chercher ce qui est juste. C'est tellement important. Chercher ce qui est juste dans tous les domaines, justement. Qu'est-ce qui est juste dans mes relations familiales? Qu'est-ce qui est juste dans mes relations avec mes collègues de boulot? Qu'est-ce qui est juste avec mes copains et mes copines de classe? Qu'est-ce qui est juste sur le plan de l'exercice de ma sexualité? Qu'est-ce qui est juste sur la manière de gérer les biens matériels? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et c'est ce que Jésus demande à ses disciples de faire en tout premier lieu. Alors vous avez remarqué, c'est chercher. Ça veut dire, ça sous-entend que ça ne devient pas une évidence forcément du premier coup. Et Jésus, il poursuit un peu cette idée. À un autre moment, il dira, cherchez et vous trouverez. Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. En fait, quand on regarde la conjugaison des verbes, c'est chercher en continuant de chercher, frapper en continuant de frapper, demander en continuant de demander. Et vous trouverez, vous recevrez. Cherchez ce qui est juste. Alors, pourquoi chercher ce qui est juste? Chercher ce qui est juste, ça peut nous faire peur, chercher ce qui est juste dans nos vies. Vous savez, le truc, c'est que des fois, si on se dit, imaginons, Jésus, il dit, je suis la lumière du monde. Tu te dis, bon, je vais laisser la lumière venir dans ma vie. Mais si la lumière vient, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je me souviens d'un pasteur qui est décédé aujourd'hui. Il y avait une telle présence de Dieu sur lui que j'avais l'impression que si je le croisais trop près, il allait voir tout ce qu'il y avait en moi de moche. Et qu'est-ce que ça produisait comme moi pour effet? J'avais peur d'être trop près de lui. Je me disais, si je suis trop près de lui, il va me raconter toute ma vie. Et surtout les parties que je n'ai pas envie qu'on raconte publiquement. Donc je me mettais à distance. Et vous savez, c'est l'histoire qu'on raconte dans la Bible. Hein. Premier bug magistral, l'histoire d'Adam et Ève, pas avec la pomme, hein, c'est un fruit juste au passage, enfin voilà, peu importe, c'est le même effet. Qu'est-ce qui se passe? Adam et Ève se plantent, ils font quoi? Ils se cachent. Ils se cachent. Ils ne veulent pas être dans la lumière. Pourquoi? Parce qu'ils ont honte. Parce que assumer la crasse, c'est terrible. Et puis, si on voit ça, comment est-ce qu'on pourra m'aimer? Comment est-ce qu'on pourra m'accepter? Comment est-ce qu'on pourra me recevoir? Et là, Dieu est extraordinaire. C'est le début de la Bible. Vous savez, des fois, on imagine la Bible avec un Dieu qui nous attend au contour pour nous scier à la base et nous montrer comment on s'est bien planté. Quelle est la première parole que Dieu prononce? Adam, où es-tu? Imaginez bien que Dieu savait où il était. Hein. Qu'est-ce que Dieu fait quand il dit Adam, où es-tu? Il essaye de dire Adam, viens, n'aie pas peur. Approche-toi, viens à la lumière. On va voir ce qu'on peut faire pour résoudre le problème. N'aie pas peur de la lumière, viens. Peu importe tes ténèbres. Viens à la lumière. Et ce soir, j'aimerais vous dire, si vous vous considérez comme des disciples de Jésus, c'est-à-dire des gens qui suivent Jésus, j'aimerais vous encourager à ne pas avoir peur de venir à la lumière et de laisser Jésus faire la lumière dans votre vie. Parce que quand Jésus vient pour faire la lumière dans votre vie, ce n'est pas pour vous scier, ce n'est pas pour vous briser, ce n'est pas pour vous casser, c'est pour vous libérer. C'est pour vous libérer. La vérité, quand la vérité de Jésus vient dans notre vie, elle nous rend libres.
Amen.
Et c'est quand on vient à sa lumière. Parce que on vient de prendre un petit bout de pain et du jus de raisin. C'est ce qui est au cœur de l'évangile. Jésus est mort sur la croix. Il a pris sur lui tout ce que nos fautes méritaient, tout ce que nos conneries méritaient comme jugement. Il a tout pris sur lui. C'est pour ça, n'aie pas peur de venir à la lumière. N'aie pas peur de venir à la lumière parce qu'il t'a déjà lavé, il t'a déjà nettoyé. Quand tu restes caché, c'est comme si tu te tiens à l'écart d'un bain libérateur. C'est comme si tu te tiens à l'écart, enfin, de la grâce et du pardon que tu cherches. De l'amour que tu cherches. Tu te tiens à l'écart d'un amour qui veut te serrer dans ses bras. Quand tu restes dans ta honte, tout seul. Ne reste pas dans ta honte. Il y a des gens qui disent, ouais, moi la dose, elle est quand même trop haute. J'aimerais te dire ce soir, il n'y a pas de dose trop haute. Il n'y a pas de dose trop haute. J'ai un ami qui est aumônier dans les prisons, il l'a encore vérifié. Il n'y a pas de dose trop haute. Jésus vient, quelle que soit la situation. Et il fait la lumière dans ta vie pour te rendre libre. Alors il le fait au début, quand tu vis cette démarche de foi, de tourner vraiment vers Jésus, mais il continue de le faire dans ta vie, dans ma vie, aujourd'hui. Il y a encore tellement de choses que je comprends de travers. Il y a encore tellement de choses que je ne vois pas. Il y a encore tellement d'attitudes, de paroles qui ne collent pas avec la réalité. Continue de venir à la lumière. Vous savez, si Dieu a dit « Adam, où es-tu ?» Il y a quand même des fois aussi, on pourrait dire « Seigneur, où es-tu ?» Et aller nous aussi à sa rencontre. Dieu nous cherche, mais est-ce qu'on est OK de chercher Dieu aussi ? Il y a un texte dans l'Ancien Testament, dans la première partie de la Bible, où il est dit « Cherchez l'Éternel, cherchez Dieu, pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt. » Il n'est pas loin, il est proche. Et puis, après, dans ce même texte, il a parlé à un moment donné que nos pensées ne sont pas les siennes et que nos chemins, nos manières de voir les choses ne sont pas les siennes. Et on va être étonné quand on rentre dans sa présence et à sa lumière. C'est tellement dommage de se priver de sa lumière. Parce que c'est là que tout devient clair. Alors venir à sa lumière, ce n'est pas pour recevoir des nouveaux codes de loi. Quand Dieu te montre ce qui est juste, ce n'est pas une liste de tu dois, tu ne dois pas, tu feras pas. C'est un petit peu autrement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pour ceux d'entre vous qui roulent, moi je suis toujours fasciné, quand vous arrivez près d'un radar, les voitures qui sont devant vous ralentissent. Et même celles qui roulaient à la bonne vitesse. C'est assez fou de constater ça. On a la peur de se faire choper. Puis alors, il y a tous ceux qui roulent comme des dingues, qui freinent juste avant le radar et puis qui reprennent juste après. Les gens, qui, je ne sais pas si ça existe toujours, qui étaient équipés de leur coyote, là, pour savoir comment gérer tout ça. Alors, voilà, quand on se préoccupe de tu feras pas, la question c'est de savoir, est-ce que, en tant que chrétien, j'ose rouler à 90, à 100 où je dois être à 80. Ça, c'est quand tu te fais des codes de loi. Mais quand tu te fais des codes de loi, tu oublies pourquoi la loi est faite. Pourquoi le sens de la loi est faite. La plupart du temps, nous, quand on est prêt à respecter des règlements, c'est pour ne pas payer l'amende. C'est à cause de la peur de la sanction. Mais ce n'est pas ça qui devrait être le moteur. Et quand tu rentres dans le royaume de Dieu, le moteur change. Quand tu ralentis juste devant le radar, c'est que ça montre que tu n'as pas compris à quoi sert la loi sur les limitations de vitesse. Fondamentalement, elle sert à quoi la loi sur les limitations de vitesse ? À éviter des accidents. Alors on peut, c'est discutable, hein, dire ça, cette vitesse elle est raisonnable, elle n'est pas raisonnable, on peut faire un débat, ok. Mais sur le fond, quand on nous demande une vitesse, c'est pourquoi ? C'est une manière d'aimer notre prochain. C'est pas pour faire la différence entre les bons et les mauvais conducteurs. C'est pour préserver des vies. C'est pour préserver des personnes. Et si tu freines devant le radar seulement parce que tu as peur de te choper une amende, c'est que tu n'as pas compris le sens de la loi. Et quand Jésus vient dans ta vie et qu'il te montre ce qui est juste, c'est pas pour te faire peur et te dire si tu loupes le truc, tu vas être cassé. Mais c'est pour te dire, c'est dans l'amour. C'est ça, apprendre à aimer. À un moment donné, Jésus le dit d'une certaine manière, l'apôtre Paul le redit d'une autre manière dans la deuxième partie de la Bible, dans le Nouveau Testament. Il dit que l'accomplissement de la loi, c'est quoi ? Le résumé de la loi, c'est aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et aime ton prochain comme toi-même. Et quand tu aimes, selon Dieu, tu accomplis la loi. Tu n'as plus à te poser la question, c'est juste, c'est pas juste. Est-ce que je peux aller à 85, à 84, à 83 ? Tu n'es plus dans ce genre de truc. Tu es ailleurs. En fait, quand tu cherches le royaume de Dieu, l'objectif c'est quoi ? Le but, c'est la transformation de nos cœurs. Pièce par pièce. Parce que le rêve de Dieu pour nous, c'est qu'on soit à l'image de Jésus. Alors je ne parle pas de la supposée barbe de Jésus, je ne parle pas des supposées fringues de Jésus, je parle de son cœur, de son caractère. C'est ça qu'il cherche. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il est dit qu'il les a créés comment ? À son image. Et ce qu'il cherche à faire aujourd'hui, c'est qu'on soit à l'image de Jésus, que l'image de Jésus soit répandue sur la terre. C'est ça simplement qu'il veut faire dans nos vies. Et si tu penses que c'est ennuyeux, non, c'est pas ennuyeux. Jésus, premier miracle qu'il fait, c'est changer l'eau en vin. Il y en a qui aiment ça, hein, peut-être, mais voilà. On a dit que c'était un mangeur et un buveur. Donc, Jésus, c'est quelqu'un qui avait le sens de la fête. Pas le sens de ce qui nous détruit, mais le sens de la fête. Le sens de l'amour. Le sens de la vie pleine, abondante. Quand tu cherches premièrement le royaume de Dieu et sa justice, c'est ça qui se passe dans ta vie. Alors, il y a quand même une nouvelle quand même, que je dois vous dire honnêtement, c'est sur cette terre, ça coûte quelque chose. Parce que si le royaume de Dieu est là, les ténèbres ne veulent pas que ça se répande trop. Et quand tu vis le royaume, quand tu commences de vivre ce qui est juste, il y a des puissances qui veulent te tenir à l'écart et te résister. Et ça, c'est vrai, et il y a un prix à payer. Mais ce prix, il en vaut la peine. Vous savez, moi maintenant, ça fait, j'ai de la peine à le dire parce que ça me vieillit un coup, mais ça fait presque 40 ans que j'ai vécu mon premier pas avec Jésus et puis 35 ans vraiment que je vis avec lui dans son royaume, toujours en processus de transformation. C'est pas fini, mais je regrette rien du tout. J'ai une vie incroyable et je me dis mais quelle folie ça serait si j'avais pas laissé ce royaume entrer dans ma vie. Mais je passerais à côté, je penserais peut-être m'éclater dans des trucs qui vont disparaître. Mes amis, tout ce qu'on voit là, ça a durée limitée, hein. Si notre espoir est là-dedans, ben nous sommes très pauvres. L'autre bonne nouvelle du royaume, c'est qu'il est durable. Il est éternel. En fait, je me souviens encore de Freddie Mercury. Bon, c'est aussi un vieux chanteur, hein, vous ne connaissez pas, une voix magnifique du groupe Queen. Si, ça vous dit quelque chose quand même, hein, parce que Bohemian Rhapsody revient sur les radios régulièrement, entre autres. Mais Freddie Mercury, il a dit vers la fin de sa vie, il a dit, vous savez, la seule chose qui me manque, qui m'a manqué, c'est une relation d'amour durable. Et c'est ce que le royaume de Dieu vient nous offrir aussi. J'ai un ami qui est décédé il y a 2-3 semaines. Je viens de recevoir des témoignages de son épouse, de comment il a vécu les deux dernières semaines et du message qu'il a laissé. Il savait qu'il n'était pas seul. Il savait qu'il allait partir, mais sa main était tenue. Sa main était tenue. Il a vécu pleinement sur la terre. Hein. Il n'était pas en train d'attendre d'être au ciel. Il a vécu pleinement ce qu'il avait à vivre sur cette terre. Mais il savait que ça allait au-delà. Et il était prêt. La transformation de nos cœurs. Et puis, et toutes choses vous seront données par-dessus. Tiens, le problème souvent, c'est que nous, on s'inquiète du par-dessus toute la journée. Qu'est-ce que je vais avoir comme boulot? Comment je vais payer mon loyer? Comment est-ce qu'on pourrait m'aimer? Et ça, c'est le par-dessus. Nous, on met souvent la loco derrière les wagons. Alors, ça, tu peux rouler quand même, hein, mais ça va quand même beaucoup mieux. Tu vois pas très bien où tu vas. Merci pour cette observation brillante. Effectivement, ça peut être un peu ennuyeux. Donc laisse le roi être devant. Et j'aimerais maintenant finir par un ou deux témoignages. De comment, vous savez, moi, les premières années de ma vie chrétienne, en fait, j'étais pas sûr que mes prières dépassent le plafond. Pendant 3 ans, je priais, mais honnêtement, comme je ressentais rien, je savais pas si ça allait beaucoup plus loin que ça. Il y a des gens, ils vivent des moments de révélation, c'est le feu, les flammes et tout ça. Moi, c'était pas mon cas. Moi, ça a commencé un peu dans le brouillard. Mais j'ai vécu un voyage où le Seigneur m'a vraiment parlé. 1991, j'ai 19 ans, comme ça vous pouvez savoir quel âge j'ai. Je ne suis pas très futé de l'avoir dit. J'ai un ami qui s'appelle Gilles, qui me dit « Ouais, Franck, cet été, à Cotonou, au Bénin, il y a un service d'été. » En fait, c'est une sorte de bouche ta ville, mais version Afrique. Ça serait trop bien que tu viennes, qu'on aille ensemble et tout. Et puis moi, je lui dis, honnêtement, j'avais l'impression que les Européens qui allaient en Afrique, c'était pour faire les petits colons, ça ne m'intéressait pas trop. Donc j'ai dit, non merci Gilles. Puis il a insisté, j'ai fini par m'inscrire. On pouvait s'inscrire pour 2 semaines, 3 semaines ou 4 semaines. J'ai pris 2 semaines pour être sûr que ça ne soit pas excessif. Et puis au moment, 2-3 semaines avant, mon ami Gilles me dit « Oh, en fait, Franck, moi, je vais pas venir parce que j'ai trop de boulot à l'université. » Super, merci Gilles. On s'est fait 2-3 trucs. Hein, voilà. Toujours est-il, je me vois embarqué dans ce voyage. Et là, j'ai commencé de vivre des choses que j'avais jamais vécues avant. Au bout d'une semaine et demie, on avait donc des temps. Le matin, c'était de la louange par le chant, c'était des enseignements. Puis l'après-midi, on allait dans les rues, on avait différentes activités. Et un matin dans l'enseignement, c'est un enseignement sur les différentes fois où Jésus dit « lève-toi » à des personnes qu'il rencontre. Et je comprends dans mon cœur, maintenant c'est le Saint-Esprit, mais que le Seigneur me demande de rester une 3e semaine à Cotonou. Et là, je me dis, ouais, bon, je vais essayer d'obéir, mais quand même. J'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, tu confirmes ça par Nestor demain matin. On avait des petits groupes de prière. Nestor, il ne sait rien du tout de ce qui se passe dans mon cœur et tout. Et le lendemain matin, dans le petit groupe de prière, Nestor, un ami camerounais, à la fin de la réunion, il dit rien. Et je dis, est-ce que tu as quelque chose à me dire? Il me dit, ouais, j'ai fait un rêve cette nuit et le Seigneur te dit, lève-toi. Ok. Je vais à l'aéroport le samedi pour essayer de changer mon billet. Les bureaux sont fermés. Un gars de l'aéroport me dit « Mais il n'y a pas de problème, vous venez lundi, vous aurez votre nouveau billet, il n'y a pas de problème. » Dimanche, l'avion décolle. Je reviens lundi. « Écoutez, monsieur, après une longue attente, déjà, votre billet, vous devez le repayer. Et il y a 40 personnes sur la liste d'attente. Donc l'avion, il est plein, plus 40 personnes. » À l'époque, j'avais une maman très inquiète et tout. Je vais à la poste, je téléphone pour dire que je vais avoir du retard. Ma maman me pose plein de questions. Je claque mes derniers CFA en poche, la monnaie locale presque. Et je me retrouve avec 150 CFA. Donc à l'époque... C'est pas grand-chose, hein. Voilà, pour ceux qui connaissent. Hein, alors aujourd'hui, c'est moins de 30 centimes d'euros, hein, je crois. À l'époque, c'était le double. Hein, j'étais quand même à 60-65 centimes au niveau de la valeur. Et vous savez, tous les soirs, alors on avait payé notre camp, voilà, mais ben là, en faisant la troisième semaine, je suis en train de me dire, mais j'ai jamais payé en fait les repas en plus. Enfin voilà. Ça fait 30 ans que je... Ah, c'est extraordinaire, il faudra que je fasse un don à Jeunesse en Mission. Alors, donc, je reste là, et puis le soir, on mangeait seulement à minuit, donc on achetait des trucs pour manger avant, vers 6h, 8h, avant les plein air du soir et tout. Et là, je vais sur ce pont qui est caché là derrière. Et je me souviens, j'ai dit, Seigneur, cette fois-ci, je n'ai pas de billet d'avion, je n'ai plus d'argent. Maintenant, c'est le jour ou jamais où tu, où tu prends ma situation en main. Et le soir même, je suis arrivé, il y avait un jeune ami béninois, son papa travaillait à l'aéroport. Il ne savait pas du tout ma situation financière. Il arrive, il dit, tiens, c'est une barquette des repas d'avion, il y en avait en trop, mon père, il, voilà, alors j'ai pensé que ça pourrait te faire plaisir, je t'en amène une. C'était du filet de sole avec petites pommes de terre et carottes. Les autres soirs, je mangeais des bananes. Hein. Voilà. Et là, je me suis dit, Seigneur, tu t'occupes de moi. La semaine passe, vendredi soir, là, ça sort tout droit, je ne vous passe pas les détails. Vous pouvez vous douter de ce qui sort tout droit. Donc, une dysenterie carabinée, la fièvre, le truc... pas bien. Et même, à un moment donné, je suis allé aux toilettes et paf, je me suis retrouvé par terre parce que j'avais plus de force. J'étais allongé. Vive l'Afrique, mais aussi, surtout, vive les Européens qui ne font pas attention à certaines choses qu'ils devraient apprendre. Après, j'ai appris un peu aussi, mais voilà. Donc, et là... J'ai senti qu'il y avait comme une tentation. Dire, voilà, Dieu te demande de faire une troisième semaine. Si c'est comme ça que ça se passe, tu tombes malade, bah bravo, il est bien ton Dieu. Et malgré ça, j'avais une paix dans le cœur et j'étais super content. Et j'arrive à l'aéroport. Encore aujourd'hui, les responsables de Jeunesse en Mission ne savent pas comment. J'ai pu monter dans l'avion. Pour la petite histoire, j'avais un siège juste à côté des toilettes. Très pratique pour moi et pour les voisins. Ben, c'est des gens qui ont prié pour moi que je sois guéri. Alors des fois Dieu guérit, puis des fois Dieu fait d'autres chemins. Et pour moi c'était un autre chemin. Après j'arrive pour moi ce jour-là c'est un autre chemin. Donc j'arrive en Suisse à la maison. Mes parents n'étaient pas là parce qu'ils étaient en vacances ailleurs en Suisse. Et j'étais en début de déshydratation et je ne le savais pas. Et ça ne m'était jamais arrivé. Ça faisait 5 ans que j'habitais dans cet endroit, dans ce village. J'étais là depuis 5-10 minutes. Ça sonne à la porte. « Bonjour, un accent anglais, nous sommes avec l'église protestante évangélique de Peseux. Voilà, on partage l'évangile. » Et là, je dis « Ah, moi, je rentre d'Afrique et tout. » Elle a vu mon état, elle a appelé les voisins et j'ai été amené à l'hôpital directement et pris en charge sans aucun problème. Ce que je ne savais pas, c'est que s'il n'y avait pas eu cette personne qui venait, j'aurais pu m'endormir pour un peu trop longtemps. Ok ? Mais j'ai vu que dans tout ça, le Seigneur a pris vraiment soin de moi. Et cette épreuve, plutôt que me décourager, je me suis dit, j'ai un Dieu qui est vraiment là. Ça vaut la peine de chercher premièrement le royaume de Dieu et ce qui est juste. J'ai encore 2 minutes ou...
2 minutes.
2 minutes, ça va. Et j'aimerais vous dire que dans les années suivantes...
Toyota,
ouais. Elle est belle, hein. Enfin, bon, elle était plus belle à l'époque. J'ai vu par la suite... Dieu pourvoir. Toutes choses vous seront données par-dessus. Je me souviens, un coup, j'étais au Locle, là où David a vécu un temps. J'avais pas beaucoup de sous. J'avais encore suffisamment de sous pour m'acheter une paire de chaussures, mais vraiment, j'étais limite. Le Seigneur me dit, va voir dans la boîte à lettres. Je vais, il y avait un colis, il y avait une paire de chaussures dedans, qui était droit à ma taille, à ma pointure. C'était un gars assez fou, un jeune croyant. 2 semaines avant, il avait l'impression, achète des chaussures pour Franck. Ouais, sérieux. Et il m'avait posé la question de ma pointure, mais moi, j'avais vu que du feu hein, quand il m'a posé la question. J'ai pas vu du tout qu'il m'avait posé la question. Et il a mis dedans un verset biblique qui était exactement ce que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là, avec la paire de chaussures. Dieu s'occupe vraiment. La voiture, Ouais, non, ça serait trop long à raconter. Je vous raconte pas tout aujourd'hui. Mais toujours. Hein? J'ai reçu une voiture à un prix défiant toute concurrence, une histoire incroyable. J'ai reçu une Toyota comme ça au moment où j'en avais besoin, au moment où je me déplaçais en France. Les chaussures et la voiture, c'était à 2 mois, c'était dans la même, période. Pourquoi je vous raconte ces histoires? C'est simplement parce que je pourrais vous en raconter avec les années pas mal, mais c'est pour vous dire simplement que si vous laissez le royaume de Dieu, si vous cherchez premièrement le royaume de Dieu et ce qui est juste, vous aurez plein de bagnoles et plein de chaussures. Non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça. Dieu va vous accompagner. Tu tomberas malade, peut-être. Tu vivras je sais quoi ou je sais pas quoi, mais le Seigneur va être avec toi, le Seigneur va te guérir, le Seigneur va t'accompagner, le Seigneur va te tenir la main. Et tu auras la vie la plus intéressante qui soit. Et c'est pour ça, ce soir, j'aimerais t'encourager à ne pas avoir peur de sortir de tes ténèbres. Parce qu'il te cherche, pas pour t'écraser. Et il a déjà fait tout ce qui était nécessaire pour que tu puisses vivre pleinement. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager. Et si vous êtes OK, j'aimerais encore juste prier courtement, puis je redonnerai la parole à qui de droit. Seigneur, je te remercie pour ton amour. Pas seulement ton amour dans ma vie, mais ton amour pour toutes celles et ceux qui sont là ce soir. Seigneur, tu connais chacune de nos vies, chacune de nos histoires, les brisements, peut-être pour certains, les abus, peut-être pour d'autres, les violences, reçues ou commises. Et Seigneur, tu connais aussi peut-être nos vies tranquilles, calmes, mais qui sonnent creux, qui sont vides. Et je te prie, Seigneur, que tu nous donnes de pouvoir t'accueillir pleinement, te laisser faire la lumière. Je te prie, Seigneur, que nos vies soient des vies transformées par ta grâce. Et Seigneur, ce soir, je veux m'opposer à toute puissance de peur qui veut nous éloigner de toi, dans le nom de Jésus. Tout esprit de mensonge aussi, qui veut nous faire croire que nous n'en valons pas la peine, qu'il n'y a pas d'espoir pour nous. Tous ces mensonges, toutes ces pensées qui veulent nous détruire, qu'elles soient maintenant brisées dans le nom de Jésus et que nous puissions recevoir ta pensée et ton amour. Amen. Amen.
Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez été bénis et nous prions que vous puissiez vous nourrir de la parole et de la présence de Dieu chez vous. Si vous souhaitez participer à l'une de nos activités ou rentrer en contact avec nous, n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux ou sur eglise-la-maison.fr.